Et après l'histoire de l'hypnose la semaine dernière, notre seconde émission s'intéresse cet après-midi à l'hypnose qui soigne, l'hypnose qui fascine, qui inquiète à la fois, mais son action thérapeutique qui est désormais reconnue avec des applications médicales à l'hôpital et des diplômes délivrés dans de nombreuses universités en France. Comment fonctionne l'hypnose? Comment est-elle utilisée dans le champ médical? C'est donc le thème de notre dossier cet après-midi, avec vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens qui semblent également perturber la Commission européenne.
Et oui, pour la troisième fois hier, la Commission européenne a échoué à définir clairement les perturbateurs endocriniens. Un rebondissement politique de plus, là où la communauté scientifique est unanime, on en discute avec le toxicologue Rémi Slama.
Et puis comme tous les mercredis, nous ferons un détour par France 5 pour la science en grand format avec aujourd'hui les secrets de la pyramide de Khéops. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et l'hypnose dans un instant dans le champ médical, dossier de l'émission avec mes invités, la psychiatre Dina Roberts et le médecin hypnothérapeute Jean-Marc Benahem. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Jean-Marc Benahem, est-ce qu'on peut tout soigner avec l'hypnose?
Non, certainement pas, mais beaucoup quand même. Quand on voit par exemple dans la consultation d'un médecin généraliste, eh bien, pour une bonne part, les douleurs, les céphalées, les colopathies, les angoisses et dépressions, ça, c'est au moins 70% des patients qui consultent, donc ça rend de grands services.
Ouais. Dina Roberts, l'hypnose souvent utilisée par le psychiatre?
Oui, tout à fait, ouais. Qui peut être utilisée à la fois en psychiatrie, à la fois pour des troubles plus lourds ou parfois dans des troubles anxieux, des problèmes aussi de dépression, que ce soit uniquement l'hypnose ou en association à d'autres pratiques, aussi dans le champ des addictions, pour en parler.
Et vous avez fait votre thèse sur le sujet, justement. On se retrouve donc dans un instant pour découvrir la pratique médicale de l'hypnose avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Hier, mardi, la Commission européenne a échoué pour la troisième fois à mettre d'accord les États membres sur la définition à donner aux perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques présentes notamment dans les pesticides, les cosmétiques ou encore les matières plastiques et susceptibles de modifier notre système hormonal. Alors pourquoi ce nouvel échec à définir les perturbateurs endocriniens? On en discute avec vous, Rémi Slama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, responsable d'équipe à l'IAB de Grenoble et président du conseil scientifique du programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Alors, une troisième déconvenue du côté de Bruxelles. Pourquoi est-ce que cette question des perturbateurs endocriniens bloque autant au niveau de l'Europe, Rémi Slama?
Écoutez, la chose qui est claire, c'est que ce n'est pas pour des raisons réellement scientifiques que il n'y a pas de décision, parce que les scientifiques sont d'accord depuis le milieu des années 90 sur la définition de ces perturbateurs endocriniens. Ça a été acté par l'Organisation mondiale de la santé en 2002, et donc c'est clairement pas pour des raisons scientifiques que cette définition n'est pas là. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on est dans une situation un petit peu particulière, à savoir que des lois qui visent à gérer le risque sanitaire posé par les perturbateurs endocriniens ont été votées par le Parlement depuis maintenant une dizaine d'années. C'est notamment la loi REACH, c'est la loi qui encadre l'utilisation des pesticides. Mmh. Et ces lois n'avaient pas de définition, n'incluaient pas une définition des perturbateurs endocriniens. Et donc, elles ont demandé, les parlementaires avaient demandé à la Commission de fournir une définition des perturbateurs endocriniens juste après le vote des lois, ce qui n'a pas été fait. Et ce qu'on peut craindre en fait, c'est que retarder la publication de cette définition pour certains États, c'est une façon de retarder l'application effective de ces lois, et donc quelque part une espèce d'instrumentalisation de la science pour des raisons politiques ou autres.
Dans le monde des scientifiques, quelle est la définition qui fait consensus aujourd'hui alors?
Cette définition, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange qui est d'origine étrangère à l'organisme et qui va altérer le fonctionnement du système hormonal et par là entraîner un effet sanitaire adverse dans l'organisme ou alors dans sa descendance ou alors encore à l'échelle de la population.
Elle est simple pourtant cette définition?
Elle est simple et elle est d'ailleurs dans le texte qui est actuellement en discussion à Bruxelles. Et en fait, mon impression, mais moi je suis pas dans ces discussions-là qui sont essentiellement politiques, c'est que le débat il porte sur des choses qui sont autour et des conditions d'application qu'on va demander au comité d'experts qui vont être chargés d'identifier les perturbateurs endocriniens. Un des points du débat, par exemple, c'est le niveau de preuve scientifique qu'on va demander. Pour identifier un cancérigène, la loi sur les pesticides va dire qu'un pesticide qui contient un cancérigène sera interdit si jamais la substance est un cancérigène certain ou présumé, ce qui veut dire un niveau de preuve élevé, mais pas forcément une absolue certitude. Sur les perturbateurs endocriniens, dans le texte qui a circulé, ce qu'on voit, c'est qu'on demande une certitude pour identifier une substance comme un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire un niveau de preuve plus élevé que celui qu'on demande pour d'autres dangers sanitaires. Et certains pays, dont la France, considèrent que ça va aboutir finalement à un retard dans l'identification de substances dangereuses, parce que ça va nécessiter d'avoir des dizaines et des dizaines d'études supplémentaires avant de d'identifier ou de classer une substance comme perturbateur endocrinien.
Vous disiez qu'il y avait déjà des lois depuis 2009 concernant les pesticides. Qu'est-ce qui empêche de les appliquer? C'est vraiment cette définition, le fait qu'elle soit absente?
La loi dit que des pesticides qui vont contenir soit un cancérigène, soit un mutagène, soit un agent qui est toxique pour la reproduction, soit un perturbateur endocrinien, ne doivent pas être mis en circulation en Europe. Bon, sauf s'il n'y a pas du tout d'exposition de la population. Donc c'est une logique d'exposition zéro. Et effectivement, ces lois, elles sont appliquées pour ce qui est des cancérigènes, parce qu'il y a une définition valable des cancérigènes au niveau européen, qui est très simple d'ailleurs, mais il n'y a pas de définition des perturbateurs endocriniens. Donc en fait, il y a en théorie des critères intérimaires qui ont été proposés par l'Europe, qui ne sont pas d'ailleurs très pertinents scientifiquement, mais c'était une manière de faire pression pour que la définition soit publiée rapidement. Mais c'est vraiment important pour la science et pour la santé publique, et aussi pour les rapports entre science et société, je crois, d'avoir une vraie définition, parce qu'effectivement, l'application de ces lois du point de vue de la santé publique, elle est retardée tant qu'on n'est pas d'accord sur la manière d'identifier les perturbateurs endocriniens. Et ce sont des lois qui sont là pour nous protéger de substances dangereuses qui ont pour certaines un impact réel sur la santé humaine. Tant qu'on n'a pas de définition, chaque instance décisionnelle va travailler avec sa propre définition, et il y a le risque que ce qui est un perturbateur endocrinien en France ne le soit pas en Allemagne ou dans un autre pays de l'Europe.
Vous parlez de l'enjeu de santé publique. Est-ce qu'il est à la hauteur du débat que suscitent ces perturbateurs endocriniens? Concrètement, si on compare à l'alcool ou au tabac, quel est le vrai enjeu de santé publique?
Le tabac et l'alcool sont des facteurs qui ont un rôle absolument majeur sur notre santé. Le tabac, c'est probablement 80 000 décès en France, ce qui est plus que probablement les décès identifiés attribuables aujourd'hui aux perturbateurs endocriniens. C'est un coût en Europe de l'ordre de 5 à 600 milliards, alors que l'estimation pour les perturbateurs endocriniens, c'est de l'ordre de 100 à 200 milliards. Donc le coût sanitaire du tabac est probablement plus élevé que celui des perturbateurs endocriniens, même si ce qu'on a identifié à l'heure actuelle pour les perturbateurs endocriniens, c'est probablement une partie de leurs effets, parce qu'il y a eu moins de recherches que sur le tabac, et que c'est une recherche qui est très compliquée. Maintenant, pour la santé publique, et puis pour quelqu'un qui fume pas, c'est très important de connaître l'impact de ces perturbateurs endocriniens, parce que maintenant, avec les lois qu'on a, on n'est plus exposé réellement au tabagisme passif, alors sauf le cas des fœtus. Or, on est exposé aux perturbateurs endocriniens, et on n'a pas vraiment les moyens d'identifier cette exposition. Donc on est face à un des grands facteurs environnementaux qui ont un impact sur notre santé, à côté de la pollution atmosphérique et à côté de facteurs de risque individuels qu'on a beaucoup de mal à combattre, comme le tabac et l'alcool.
Justement, Rémi Slama, est-ce qu'aujourd'hui on a des études sérieuses sur les effets délétères des perturbateurs endocriniens qui étayent justement ces inquiétudes qui se généralisent là dans le monde entier?
Alors, Oui, ça fait 25 ans qu'il y a de la recherche sur ces questions. D'abord, il y a eu beaucoup de travaux sur la faune. Il y a eu des exemples historiques chez l'humain, notamment avec le drame du distilbène, qui est un composé qui mimait l'action des oestrogènes et qui causait, après une exposition intra-utérine, des cancers 20 ans et plus après l'exposition. On a bonnes données concernant des perturbateurs endocriniens historiques tels que des pesticides organochlorés comme le DDT qui, là encore, après une exposition intra-utérine, probablement augmente le risque de cancer du sein dans les 50 ans qui suivent. Et puis, pour d'autres perturbateurs endocriniens qui sont encore autorisés, et notamment le bisphénol A pour certains phtalates, pour les pesticides organophosphorés, on a des éléments qui s'accumulent sur le fait que ce sont des substances qui vont pouvoir notamment avoir des effets sur le système nerveux. On peut aussi inclure les retardateurs de flamme polybromés qui créent des troubles du développement neurologique chez l'enfant, des troubles du comportement. Il y a des questions aussi sur leurs effets sur le développement du cancer de la prostate. Donc on est dans une situation où il y a une convergence des études de la toxicologie académique et des études épidémiologiques qui commencent à avoir de belles cohortes qui permettent de caractériser ces effets des perturbateurs endocriniens sur la santé.
Merci beaucoup Rémi Sama. On reconsacrera du temps évidemment à cette question des perturbateurs endocriniens et plus longuement d'ailleurs dans la tête au carré parce que cette question intéresse évidemment et préoccupe beaucoup et vous serez le bienvenu pour en discuter avec d'autres invités. Merci à vous en tout cas pour vos explications en attendant donc une nouvelle définition par la communauté européenne. Merci Axel.
Merci,
à demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, collecter l'énergie du monde végétal, eh bien c'est le travail d'une équipe suédoise qui vient de faire un premier pas très intéressant vers l'utilisation des végétaux comme source d'énergie. Grâce à une solution de polymère conducteur injectée dans une rose, ils ont réussi à transformer la fleur en un véritable transistor. Ils démontrent, ces scientifiques dans la revue PNAS, que la fleur peut alors être chargée et déchargée plusieurs centaines de fois sans aucune perte. L'étape suivante va consister maintenant à pouvoir collecter directement l'énergie issue de la photosynthèse naturelle de la plante sans avoir besoin de la charger au préalable. Et puis la vidéo d'un poisson qui gambade sur les fonds marins, capturé par le robot d'exploration de l'Agence nationale océanique américaine au large des îles Samoa. Ce poisson intrigue les chercheurs car si certains d'entre eux réussissent à marcher grâce à leur nageoire pectorale, celui-ci semble posséder quatre petits appendices supplémentaires, sorte d'extension de ses nageoires qui lui donnent l'air de marcher à quatre pattes. La vidéo filmée à 500 mètres de profondeur est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, la pratique médicale de l'hypnose, notre dossier dans un instant. Tell me love.
You're my favorite, you're my favorite. But we're phasing, but we're phasing. You're my favorite, you're my favorite. But we're phasing, but we're phasing. You're my favorite, you're my favorite. But we're phasing, but we're phasing. You're my favorite, you're my favorite. You're my just broke apart. Is there not in the shape that's hung? Is this just a break apart from us? Should I hurt your feet? Shake on me. Should I hurt your feet? Shake on me.
Break apart. Bonobo à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et l'hypnose, une pratique médicale au cœur de notre dossier avec mes invités, la psychiatre Dina Roberts et le médecin Jean-Marc Benayem. Dina Roberts, vous exercez à l'hôpital Marmottan, au centre d'addictologie, et vous avez soutenu une thèse donc en 2015 sur l'hypnose thérapeutique et la psychiatrie. Et puis Jean-Marc Benayem, vous êtes hypnothérapeute dans les centres de traitement de la douleur. Et vous avez créé en 2001 le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière,
oui. Hein,
sur les lieux même de Charcot et de l'hystérie, c'est ça?
Oui, oui, ouais. C'était une surprise que ce soit finalement accepté dans, ouais, dans ce lieu, et c'était le retour de l'hypnose à la Pitié.
Ouais, alors depuis, ça s'est généralisé. Hein. Beaucoup d'universités proposent ce diplôme.
Pendant plusieurs
en France,
années, hein. C'est resté le seul, à mon étonnement, et puis finalement, au bout de 7 ans, il y a eu une floraison d'autres diplômes. Il y en a bien une douzaine maintenant en France.
Absolument. Et vous avez publié, entre autres, Zen et hypnose, 12 principes d'équilibre pour vivre heureux aux éditions de La Martinière. C'est sorti ce livre l'année dernière avec des photographies qui accompagne vos textes.
Oui, oui, ça a été pour nous une expérience importante de voir que l'hypnose, au-delà des frontières, a d'autres expressions, d'autres phénomènes de transe ou bien de méditation. Et là, c'était plutôt la méditation. Et on voit que pour aller mieux, il y a des similitudes dans différentes cultures.
Oui, Dina Roberts, vous êtes d'accord avec cette idée-là, évidemment. La méditation et l'hypnose, on peut trouver beaucoup de similarités entre les deux?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est important d'avoir en tête que l'hypnose dont on parle, c'est surtout tout le processus thérapeutique par lequel on utilise l'état, alors qu'on peut appeler état d'hypnose, qu'on peut aussi appeler état de disponibilité, parce qu'il n'est pas en fait cet état en lui-même, a priori, spécifique à l'hypnose. Dans la méditation, on recherche aussi à passer par cet état-là et à l'utiliser. Ce qui est particulier dans notre utilisation de l'hypnose médicale, c'est à la fois le contexte dans lequel on l'utilise, la relation thérapeutique par laquelle on passe pour l'utiliser, et bien sûr l'objectif, l'intention avec laquelle...
Alors c'est peut-être ce qui diffère d'ailleurs de la méditation pour le coup, c'est la relation thérapeutique qu'on a aussi avec la personne en face de soi, hein, Jean-Marc Benayem.
Oui, c'est vrai que c'est ce qui vient d'être dit est exactement ça, c'est-à-dire que dans l'hypnose thérapeutique, celle qu'on utilise au quotidien, il y a une intention de soigner, de soulager quelqu'un. C'est pas, détendez-vous, installez-vous, peut-être ça va venir. On dit non, on intervient. On dit, ah mais là vous ruminez, là vous ressassez. L'hypnothérapeute s'implique et implique le patient pour aller mieux. Donc il y a une intervention qui est très tonique et très présente.
C'est ça. Donc ce binôme, il est important dans l'idée de l'hypnose aussi, Dina Roberts?
Oui, extrêmement important. Il y a une relation de confiance et une alliance qui se fait entre le patient et le thérapeute à ce moment-là. Ça peut arriver d'ailleurs que parfois ça ne se fasse pas avec un certain thérapeute, et puis la personne ensuite, en rencontrant quelqu'un d'autre, va pouvoir utiliser l'hypnose, alors que ce n'était pas le cas dans la première rencontre.
C'est ça. Donc il ne faut pas hésiter à changer de praticien si on ne le sent pas, hein. On peut dire les choses comme ça.
C'est ça. Au-delà de la technique, c'est comme ça vient d'être dit, c'est qui est cette personne? C'est-à-dire, ça compte plus que toutes les techniques. Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on va faire un chemin? Est-ce que je sens une ouverture? Est-ce que je me sens compris, entendu, etc.
Ouais. Dina Roberts, alors cette thèse en 2015, hein, puisque vous pratiquez depuis très peu de temps maintenant la psychiatrie, sur l'association justement de l'hypnose et de votre pratique. D'abord, c'est quelque chose de nouveau dans la profession ou pas, cette association des deux? Parce qu'on utilise aussi des médicaments en psychiatrie. Hein.
Alors bien sûr. Alors ma thèse, effectivement, c'est ma thèse de médecine. J'ai eu la chance de pouvoir très tôt utilisé l'hypnose, ce qui m'a permis en fait de l'utiliser dans différents contextes, parce que quand on est interne en médecine, on passe dans différents services, donc ça peut être avec les enfants, avec les adolescents, avec des adultes, en psychiatrie, en addictologie. Alors il y avait assez peu de praticiens dans les endroits où je suis passée, mais il y a aujourd'hui une ouverture assez pratique. Il y a toujours eu des gens qui ont utilisé l'hypnose, même avant ce renouveau. En revanche, c'est vrai qu'il y a pu avoir, à un moment donné, la psychiatrie, l'idée d'abord des médicaments, et il y a des endroits où c'est encore le cas. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut tout à fait utiliser l'hypnose chez un patient qui prend des médicaments. Ça peut aussi, alors bien sûr, ça permet de réduire l'utilisation, par exemple, d'anxiolytiques, de somnifères, mais c'est tout à fait possible d'associer les différentes prises en charge.
Oui, à quel moment vous faites le choix, et je vous poserai la question également, Jean-Marc Benayem, justement d'avoir recours à l'hypnose parallèlement au traitement traditionnel?
Alors ça peut dépendre de beaucoup de choses, ça peut dépendre alors de la demande du patient, certains nous en font la demande. Ensuite, on peut sentir que certaines personnes, par exemple, sont beaucoup dans la rationalisation, dans les essais de compréhension, mais qui ne sont pas en train de ressentir ce qui se passe. Et donc, c'est un chemin qui permet d'aider les gens à revenir au corps aussi et à ce lien entre ce qui se passe, leur compréhension, mais aussi juste ce qui se passe à ce moment-là pour eux au niveau de leurs sensations. Et ça permet souvent d'avoir un autre accès ensuite pour pouvoir travailler avec eux, les aider et les soulager.
Jean-Marc Benayem, vous, dans votre parcours de médecin généraliste, alors comment l'hypnose est arrivée au fond?
Par exemple, ce matin, je reçois une jeune femme qui a des douleurs musculaires qu'on a étiquetées fibromyalgiques. Eh bien, nous pourrions, et c'est ce qui a été fait, lui donner des médicaments qui vont essayer de relâcher ses muscles et donc de réduire la douleur. Et puis, elle dit, oui, mais d'accord, mais ça a des effets secondaires, je suis ramollie, je suis pas bien. Elle dit, essayons, est-ce que l'hypnose pourrait faire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle attend de l'hypnose? Eh bien, de modifier sa façon d'être, même dans la vie. C'est-à-dire, elle dit, oui, c'est vrai, je suis très exigeante, c'est vrai, je suis perfectionniste, et donc j'ai un corps contracté et douloureux, parce que j'ai traversé beaucoup de choses difficiles dans ma vie. Donc, l'expérience, c'est que le médicament force un peu le corps à relâcher, et nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne ne force pas, au contraire, qu'elle relâche quelque chose musculairement, ou des obsessions, ou des habitudes, façon d'être dans la vie, et qu'elle, si, elle trouve la sortie de la guérison par elle-même, et pas forcée par une substance, par une drogue.
Et si ça marche pas, alors?
Alors, heureusement, il y a des patients qui trouvent le chemin, mais malheureusement aussi, tout le monde ne peut pas résoudre des problèmes qui parfois sont très anciens, donc on a également beaucoup d'échecs de patients qui ont du mal à changer.
Mais quand on vous entend nous dire cela, on pense à une psychothérapie au fond, non? Est-ce que c'est pas ça l'hypnose? C'est alors, revenir sur l'histoire du sujet, non?
Alors c'est parce que nous avons l'habitude en Occident de séparer le corps et l'esprit. Et dès que l'on parle d'une certaine façon d'être dans la vie, on dit « assez psychique ». Non, c'est le corps, puisqu'elle a mal dans ses muscles, dans ses tendons, dans ses ligaments. Donc son esprit est bien dans ses muscles. Et les muscles, comme sa tête, dit « tu dois tout exiger dans la vie, tu dois être la meilleure, tu dois être performante ». Et ses muscles, comme sa tête, vivent la même souffrance.
C'est ce que rappelait François Roustan, d'ailleurs, qu'on avait reçu à ce micro il y a 2 ans avant sa disparition. C'était l'importance, justement, du corps. C'est ce qui l'avait d'ailleurs éloigné de la psychanalyse.
Absolument. D'ailleurs, il citait volontiers une phrase de Wittgenstein quand il disait que la meilleure image de l'esprit, c'est le corps.
Dina Roberts.
Oui, ce qui est particulier avec l'hypnose, c'est qu'on a, dans certains cas, des gens qui peuvent, en une seule séance ou en quelques séances, changer. Ça ne veut pas dire que chaque personne est capable, en quelques séances, de changer. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. C'est des gens qui ont plus de souplesse à ce moment-là et qui se remettent en mouvement. En revanche, il y a d'autres patients pour lesquels il faut un temps plus long de psychothérapie ou parfois l'hypnose peut venir comme une aide ou un soutien. Il y a des différentes possibilités de gens qui sont prêts à changer à ce moment-là ou des gens pour lesquels il y a besoin d'un travail un peu plus long.
Alors, un exemple justement de l'utilisation de l'hypnose à l'occasion d'opérations justement qui ont lieu par exemple à l'hôpital Saint-Joseph, c'était le cas en 2013, reportage diffusé sur France 2.
L'hypnose commence dès l'entrée au bloc.
En regardant l'horizon, qu'on entend les mouettes.
Une petite musique chuchotée à l'oreille du patient.
Devant la mer, derrière la montagne.
Tandis que l'équipe médicale se prépare.
Plein de monde avec des jeux d'enfants.
Et que le chirurgien fait son entrée.
Des ballons, du cerf-volant.
Une demi-heure après, l'intervention peut commencer.
On respire, on sent les choses.
Pendant toute l'opération qui dure 1h30, l'anesthésiste ne lâche pas son patient pour le maintenir en veille constante. Et éviter qu'il ne décroche.
À l'écoute de rien, de tout.
Ça va être trop longtemps.
ça n'a aucune importance.
Comme quand il se met à parler. Le chuchotement reprend alors et le patient replonge dans un état second. Fin de l'intervention.
Ça autorise une réadaptation plus rapide. Le fait de ne rien injecter pour avoir intraveineuse, évidemment, permet au patient de retrouver toutes ses fonctions quasi immédiatement.
Voilà, le docteur Margali, anesthésiste, qui propose donc une légère anesthésie locale combinée à l'hypnose à l'hôpital Saint-Joseph, Jean-Marc Benayem. Alors, ça c'est étonnant qu'on utilise l'hypnose dans des actes chirurgicaux.
L'hypnose nous montre qu'il y a deux étapes, deux stades, dans le processus. La première est une confusion, dissociation, où la personne peut s'éloigner temporairement de la situation, et c'est donc très utilisé pour les soins douloureux, puisqu'en quelque sorte, le patient va donner son corps, va donner sa carotide, dans ce cas de la chirurgie, va donner une jambe, va donner un bras, à des soignants bienveillants qui le réparent, et peut s'éloigner. Ça nous montre que cette capacité dissociative que nous avons corporelle, on connaissait surtout la dissociation psychiatrique, et voilà qu'on peut aussi être présent et absent. Et cet effet, quand c'est dans un contexte bienveillant, est analgésiant. Et d'ailleurs, la personne dit « non, je n'ai pas senti grand-chose ». Donc c'est très utilisé pour les soins douloureux. Et puis il y a une autre étape qui est, à cette fois-ci, non, je suis tout dans le sensoriel, je suis hyper présent pour résoudre un problème de douleur chronique, d'addiction.
Mais est-ce qu'on peut complètement remplacer une anesthésie par de l'hypnose en chirurgie?
Ah non, je crois que c'est important de préciser.
Ce serait dangereux de le faire, non?
Mais c'est pas du tout, ce serait un risque. Mm-hmm. Non, l'hypnose s'ajoute dans les cas d'anesthésie loco-régionale, lorsqu'on n'avait pas besoin de plus, et là, ça fait bien, ça évite les syndromes post-traumatiques, ça évite les douleurs post-opératoires.
Dina Roberts, ça.
Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point l'hypnose joue sur l'orientation de l'attention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au lieu que l'attention soit obnubilée par la douleur qui est présente à ce moment-là, elle a éventuellement l'information, mais toute l'attention du patient est redirigée vers ce qui peut être imaginé à ce moment-là, quelque chose d'agréable. C'est le même mécanisme, finalement, qui peut être utilisé lors des thérapies aussi avec l'hypnose.
Allez, c'est notre seconde émission aujourd'hui sur l'hypnose, avec les messages qui arrivent nombreux sur le site de la Tête au Carré. Je vous les transmets bien sûr dans un instant, juste après Paradis, Recto Verso. recto verso paradis à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
L'hypnose avec mes invités, la psychiatre Dina Roberts et Jean-Marc Benayem, médecin hypnothérapeute et non hypnotiseur. Hein, parce qu'on a des messages d'auditeurs. Il y a Benoît, pardon, qui nous dit « Quels sont les critères pour trouver un bon hypnotiseur sérieux et compétent ?» Alors, vous n'êtes pas hypnotiseur. Hein.
Non, c'est vrai qu'on cherche à expliquer que l'hypnose qui est présente au Music Hall, c'est pas de l'hypnose.
C'est ça.
C'est de la manipulation, c'est pas tout à fait... C'est la pathologie. Mmh. C'est comment on peut manipuler quelqu'un. Pour trouver des hypnotiseurs médecin ou psychiatre ou psychologue,
alors, donc hypnothérapeute
cette fois-ci, oui. Eh bien, il y a des sites, on peut aller voir sur les sites des gens qui ont été formés, qui ont fait le diplôme universitaire, par exemple. Mm-hmm. Donc, il y a des sites hypnose-medical.com où là, on a un listing France entière qu'on peut envoyer aux personnes qui souhaitent. Mais c'est ce qui est aussi possible, c'est que la personne demande à la personne qu'elle contacte, qui êtes-vous ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes médecin, psychologue, dentiste, sage-femme, infirmière, voilà, qui êtes-vous ? Que je sois sûr d'avoir affaire à un professionnel de santé.
Et puis ensuite, c'est cette relation qui fait le reste, Dina Roberts, justement.
Oui, tout à fait. Puis ce qui est important à noter, c'est que en fait, il y a différentes pratiques, on peut utiliser l'hypnose. Ce qui est important, c'est d'aller voir quelqu'un qui, sans l'hypnose, a déjà la possibilité de répondre à la demande. Un psychiatre va pouvoir répondre dans son domaine de compétences, un anesthésiste dans le sien, par exemple.
Alors, d'autres questions des auditeurs. Yannick qui nous dit ceci. J'ai suivi des traitements contre la dépression pendant une trentaine d'années avec des hauts et des bas. Et il y a 6 ans, j'ai rencontré un psychiatre avec lequel nous avons fait une séance d'hypnose. Ça a changé ma vie, dit-il. Depuis, avec 6 ans de recul, je ne prends plus aucun médicament. Je vais très bien et je le recommande. Dans les cas de dépression, par exemple, ça fonctionne bien ?
Tout à fait. Ouais. Et il y a certains patients pour lesquels ça peut être une alternative au traitement. C'est-à-dire des gens qui ont ou n'ont pas à la base la demande de l'hypnose. Et on peut essayer dans un premier temps, par exemple, l'hypnose. D'autres fois, il peut arriver qu'on utilise dans un premier temps un médicament pour que la personne puisse aller suffisamment bien pour ensuite pouvoir être réceptive et ensuite ne plus avoir besoin du médicament.
Comment ça fonctionne, Jean-Marc Benayem ? Dans le cas d'une dépression sévère, par exemple, quelques séances ne suffisent pas pour accompagner une personne ?
C'est vrai qu'il faut trouver la porte d'entrée, mais par exemple, là je donne un schéma un peu qui va varier suivant la personnalité. Mais on peut imaginer que si la personne, comme dans le livre sur Hypnose et Zen, si elle est par exemple tournée vers le passé, c'est-à-dire j'ai été violenté, ou j'ai été agressé, ou bien j'ai été abandonné, et si la personne reste sur le passé, sur cette perception-là, on peut imaginer qu'elle est dans la souffrance indéfiniment.
Ça, c'était la critique de la psychanalyse de Roustan, justement. Il disait finalement, la psychanalyse c'est ça, ça n'est que ressasser le passé éternellement, et jamais sortir de la plainte. Hein.
Voilà, bon, c'est vrai, c'est un peu une caricature, mais c'est vrai que le principe est quand même celui-là. Donc si la personne est déplacée par la séance d'hypnose, c'est-à-dire qu'elle n'est plus présente dans le passé, mais qu'elle revient dans le présent, peut-être qu'elle va dire, finalement, dans le présent, ça va. J'ai construit ma vie, tout va bien. Elle va cesser de se plaindre, de ressasser, et elle va ressentir un tel soulagement qu'elle peut dire, ma vie est changée.
Bon, mais c'est comme ça, du jour au lendemain? Enfin, ça paraît miraculeux.
Ce sont des phénomènes attentionnels. Si la personne veut bien lâcher sa plainte, par exemple, je me souviens d'une séance avec François Roustan, qui nous a raconté, la patiente a été abusée, vous voyez, de la souffrance que ça peut être dans sa vie, et puis, une seule séance, il la regarde et il lui dit, madame, ce drame ne suffit pas à expliquer toute votre vie, vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes plus que ce drame. Elle a dit, vous voyez, ça s'est ouvert. Elle a dit, ah bah oui, c'est vrai. Elle n'a plus eu besoin de revenir. Ouais. Elle s'est dit, ok, c'est bon, je change de registre, en quelque sorte, et ça s'est ouvert.
Dina Roberts,
ce qui est important, c'est, je pense, que le thérapeute, déjà, puis le patient, puisse avoir l'idée, l'ouverture, que ça puisse effectivement changer rapidement. C'est-à-dire que parfois, on enferme les patients avec un diagnostic, avec un traitement qu'il faudrait prendre pendant des années. Ça peut arriver que ça enferme, et donc d'ouvrir à la possibilité d'un changement rapide, c'est déjà, en soi, l'ouverture au changement. Ensuite, ça ne veut pas dire que tous les patients changent rapidement, ça ne veut pas non plus dire que si on ne bouge pas avec une séance d'hypnose, ça ne peut pas bouger dans un accompagnement plus long. C'est important de savoir que les deux peuvent exister. Et...
Oui. Alors, quelles sont aujourd'hui les études scientifiques qui ont été menées aussi sur l'hypnose ? Ça nous intéresse, parce qu'en imagerie aussi, on peut observer les effets vraiment en direct quasiment de l'hypnose.
Alors, il y a énormément d'études qui sont faites actuellement sur l'hypnose. Il y a une chose quand même à rappeler qui est importante, c'est que le contexte de la recherche est quand même assez éloigné du contexte clinique. Et parfois, par exemple, sur l'efficacité de l'hypnose, on perd un petit peu en efficacité dans les études parce que l'hypnose s'adapte au sujet à chaque moment. Alors que pour les études, il faut un protocole, ce qui est déjà un petit peu différent de la clinique. clinique. Cependant, il y a certaines choses qu'on peut voir au niveau cérébral. Alors, l'hypnose, on n'a pas pu trouver, comme je le disais tout à l'heure, un état qui serait spécifique à l'hypnose. En revanche, le fait, tout le processus de mettre quelqu'un en hypnose agit sur certaines zones du cerveau. Mmh. En simplifiant, ça agit sur les zones attentionnelles, ce qui n'est pas étonnant vu ce qu'on peut observer en clinique, et sur les systèmes dits exécutifs, qui peuvent être les systèmes de contrôle de l'action, de planification, aussi sur les systèmes de la conscience de soi et de l'environnement. Voilà, c'est les trois zones sur lesquelles agit l'hypnose.
C'était important d'avoir des études scientifiques, Jean-Marc Benayem ?
Ça rassure les médecins.
Ah ouais.
Ça rassure les scientifiques qui, de ce fait, nous ouvrent des portes en disant bah, « si on a des études qui montrent que, vous êtes les bienvenus et on va peut-être pouvoir réintroduire l'hypnose dans la formation des médecins ». C'était mais quand même intéressant puisque la formation au départ des médecins est scientifique. Donc, ils ont besoin aussi de prendre appui sur cette recherche. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que l'hypnose n'est pas un sommeil, mais au contraire, puisque, comme disait Dina Roberts, que l'attention était tellement développée, que les phénomènes attentionnels étaient tellement dilatés que la personne pouvait résoudre un problème par cette hyperconnectivité cérébrale. Donc, c'est un état d'hyper-éveil, d'hyper-présence.
Ouais. Et de compagnonnage avec le patient. Hein.
Mais oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire tout seul. Mmh. Et on a besoin de quelqu'un qui soit non pas un guide, mais comme vous venez de dire, quelqu'un qui accompagne l'expérience.
Allez, encore l'exemple de la pratique de l'hypnose contre les douleurs chroniques. Extrait de l'émission Allô Docteur en 2012.
Depuis un accident de la route il y a 20 ans, Régis est tétraplégique et souffre de douleurs chroniques.
Tranquillement, retrouvez ce jour où vous avez joué au tennis et où c'était une évidence que tout allait bien se passer. C'est un bon souvenir. C'est un souvenir agréable, confortable.
Il m'est arrivé une sensation un jour où j'étais vraiment dans un état exceptionnel de jeu et j'essaie de retrouver cette sensation parce que là, ce jour-là, tout fonctionnait à merveille. Là, je sais que j'avais pas mal ce jour-là. J'étais vraiment bien. Il y avait tout le corps fonctionnait comme une machine d'horlogerie suisse. Hein. Donc ces hypnoses, elles m'apportent un bien-être, ouais. Un bien-être, une sérénité en fait. Hein. Ouais. Sérénité. Alors après, de voir si. Pourquoi, comment, mais c'est vrai que je me sens serein après ça.
Voilà, Jean-Marc Benayem, donc ce patient tétraplégique et le recours à l'hypnose, donc dans le cadre de douleurs chroniques.
Ce sont des histoires très douloureuses qu'on voit dans les centres de traitement de la douleur des personnes amputées, paraplégiques, tétraplégiques. L'idée, si vous voulez, c'est pas de lui dire tout va bien, ben non, il a un handicap terrible, mais d'une certaine manière, est-ce que pour aller bien, nous ne devons pas simplement, et c'est, je dis simplement entre guillemets, accepter la réalité ? Ça fait partie des principes qui sont, je dirais, essentiels aussi bien dans le bouddhisme zen que dans l'hypnose. Je veux dire, ne pas s'opposer à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on est content de « bah oui, c'est bien, je suis paralysé ». Non, ça veut dire que si je ne prends pas en compte la réalité, je n'ai plus de point d'appui. Et donc la chronicité des douleurs, de la souffrance s'installe. Si je dis c'est ça mon point d'appui, c'est ce qui existe aujourd'hui, alors je peux commencer à reconstruire quelque chose.
Ça veut dire que Dina Roberts, que le lâcher prise, il est essentiel pour aller sur la voie de la guérison justement avec l'hypnose ou d'autres pratiques d'ailleurs. Hein.
Alors. Oui, alors tout dépend aussi de ce qu'on appelle lâcher prise, mais en tout cas il y a quelque chose dans l'ordre de lâcher la recherche, la rumination, que ce soit la rumination du passé, l'anticipation anxieuse du futur, et de pouvoir venir à ce moment-là dans les émotions et les sensations du moment présent. C'est pareil par exemple en addictologie, cette idée de pouvoir revenir à ces sensations. Souvent il y a des prises de produits qui permettent de ne pas ressentir, alors ça peut être des cas de douleur, ça peut être aussi des anxiétés, des peurs, des choses très douloureuses qui ont été vécues. Du coup, le simple travail parfois de pouvoir se reconnecter à ce qui se passe dans le corps, des petites choses simples, ça peut être à ce moment-là un moyen de changer de façon de se mettre en contact avec la réalité, de se remettre à ce moment-là en contact avec toute sa réalité, ce qui est une des choses qu'on peut travailler avec ces patients-là.
Allez, on revient vers vous dans un instant. On parlera de l'hypnose ericksonienne. Il y a des questions là-dessus. On parlera de l'arrêt du tabac aussi, par exemple, et vous répondrez aux messages des auditeurs.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
À partir d'aujourd'hui, vous avez décidé de vous libérer. De vous libérer précisément de ce poison. De ce poison qui vous suit depuis pas mal de temps.
Au réveil, il est étourdi.
Cette lumière qui vous... Ce poison qu'on appelle le tabac.
On m'a inséré dans l'esprit, en fait, des images associées à la cigarette. Sans en avoir le goût, j'avais cette sensation très désagréable de dégoût, de nausée. C'est une sensation qui me restera, je pense.
Jean-Marc Benayem, Dina Roberts, nos invités pour parler d'hypnose. Ça ressemble à ça une séance d'hypnose, Dina Roberts, ou pas?
Alors, ça dépend. En tout cas, pour la cigarette, c'est important de savoir qu'on peut utiliser parfois le dégoût, mais souvent on utilise aussi plutôt le plaisir qu'on peut avoir à retrouver des sensations agréables, et pas forcément le dégoût. C'est une des possibilités, pas la seule.
Bon, en tout cas, on pose des mots très particuliers sur les choses.
Oui, à chaque patient, ça peut être... C'est quand même un déconditionnement. C'est-à-dire, la personne vient et elle idéalise quelque chose. Bon, si elle vient, c'est qu'elle commence à moins idéaliser. Et on lui propose finalement de changer sa perception, de poursuivre ce changement. Et c'est vrai que ça peut déboucher sur un dégoût, une indifférence, un détachement ou bien le plaisir de vivre.
Ouais. Et ça fonctionne bien alors, sur le tabac? Et quel est le taux de réussite alors?
C'est-à-dire que l'hypnose, vous voyez, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas comme le timbre ou comme... C'est le passage obligé pour que quelqu'un qui était comme dans une secte, on pourrait dire, puisse se libérer et dire « mais en fait, je suis libre, je fais ce que je veux, c'est mon corps ». Et en quelque sorte, se libère de cette emprise. Oui. Donc, quoi qu'on fasse, par quelque technique qu'on veuille, on utilise toujours l'hypnose.
Oui.
ou une auto-hypnose, si on veut.
Donc le principe pour quelqu'un, par exemple, qui souhaite arrêter de fumer ou qui a d'autres addictions, puisque vous travaillez tous les deux dans ce domaine de l'addictologie ou des douleurs, alors c'est quoi?
Ben, il change de mode. Ouais. C'est-à-dire, il y a un mode passif où je dis tant pis, je me laisse faire, c'est génial, c'est mon ami, ça m'aide à vivre. Et il passe de l'autre côté, c'est-à-dire non, ça m'aide pas à vivre, ça m'aide à mourir. Ouais. Non, c'est pas mon ami. Non, c'est non, mais je veux pas rester avec quelque chose qui me fait du mal. Et petit à petit, il ressent une telle joie de sortir de cette emprise, de cette dépendance, un tel bonheur de dire enfin je fais ce que je veux, c'est plus elle qui commande, c'est moi qui décide. Et il retrouve son chemin.
Dina Roberts.
On s'intéresse aussi au rôle que joue le produit que prend le patient. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des personnes. Par exemple, si le rôle du produit est de venir répondre à une anxiété, dans ces cas-là, ce que va pouvoir amener l'hypnose, c'est par exemple de la détente et offrir donc un autre moyen à la personne d'être détendue sans avoir à passer par le produit.
Mmh. Est-ce qu'on est tous égaux face à l'hypnose, justement, face à l'efficacité potentielle de l'hypnose?
Alors, non, il y a des différences. On parle de différences de suggestibilité. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'une hypnose profonde pour que l'hypnose puisse être efficace. Donc, une grande majorité des gens peuvent être sensibles à l'hypnose. En plus, cette sensibilité, elle varie. Encore une fois, on va en revenir là avec la relation avec la personne. C'est-à-dire, quand on a plus confiance avec un thérapeute, on va à ce moment-là être plus suggestible.
Jean-Marc Benayem.
Mais c'est ça, la difficulté, ça vient d'être dit, c'est de trouver le chemin. On peut dire, enfin une image, que le patient qui consulte est dans un labyrinthe ou il est en train de sortir d'un labyrinthe. Et la difficulté pour l'hypnothérapeute et pour le patient, c'est de dire, mais quel va être le chemin, quelle va être la proposition qui va lui convenir, qui va faire que le patient va faire un saut. C'est-à-dire, bon, allez, je saute dans la piscine, vous voyez, l'enfant qui a peur, ou je me lance. C'est-à-dire, j'arrête de maîtriser, de contrôler, je prends des risques, allez, on va voir ce qui se passe. Et si on se lance comme ça, il y a des personnes qui disent « Ah ben c'est enfin libre, enfin détaché
ouais. ». Alors beaucoup d'auditeurs vous demandent de nous dire un mot sur l'approche ericksonienne. Certains s'étonnent qu'on n'ait pas encore prononcé ce nom d'Erikson dans l'émission.
Alors Erikson, c'est magnifique le travail d'Erikson et on a quelques ouvrages qui décrivent bien son travail. Je crois que si on ne l'a pas utilisé jusqu'à présent, c'est parce qu'en fait il fait partie de l'hypnose. Et c'est-à-dire on pourrait dire l'hypnose de Roustan, on pourrait dire beaucoup de l'hypnose de Chertoff, etc. Je crois que ce qui est important, c'est que nous apprenions toutes les techniques et qu'ensuite, suivant le patient qui est devant nous, nous puissions appliquer l'un ou l'autre, c'est-à-dire ce qu'il va lui convenir. Mais c'est vrai qu'Erikson a éclairé l'hypnose d'une manière magnifique.
Michel nous dit, alors ça c'est une critique, pourquoi donc abonder cette idée qu'en analyse, on ne ferait que ressasser le passé? Cette collusion avec votre invité traduit votre ignorance de ce qui se passe et se transfère sur le divan. Donc ça c'est pour moi un peu de distance et d'humilité. Donc chacun sa critique.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on connaît des psychanalystes qui ne jouent pas du tout ce rôle d'écouter passivement et qui interviennent, et ça c'est très très bien. Mais ce qu'on disait simplement, c'est que si le patient ressasse, il faut intervenir en lui disant, bon, écoutez, ça là, ça devient narcissique, peut-être qu'on n'a plus besoin de se regarder, mais de passer plutôt dans l'action. Donc de réduire la distance entre l'action, la présence et la personne se met à agir. Et c'est ça qui est bénéfique.
Un témoignage d'Anne Flore, directrice d'une école primaire. Je conseille de plus en plus aux familles de consulter un médecin hypnothérapeute de notre village, dont le travail a un effet radical sur certains élèves, jusqu'à permettre à certains d'entre eux d'être rescolarisés. Le résultat est étonnant, rapide, durable, davantage qu'avec des suivis psychologiques.
L'hypnose peut effectivement être très intéressante pour les enfants. Les enfants utilisent naturellement l'hypnose quand on voit des enfants jouer, qui sont complètement dans un monde imaginaire, tout en pouvant être présents.
C'est quoi? C'est de l'auto-hypnose pratiquement?
Alors, oui, ouais. Tout à fait. Après, c'est comment on peut les aider à utiliser l'hypnose là où ils en ont besoin.
Sabine dit, l'hypnose est-elle indiquée pour traiter l'anxiété induite par un stress post-traumatique, en l'occurrence un gros accident de voiture, donc un souvenir qu'il vaut peut-être mieux garder enfoui dans l'inconscient?
Alors, c'est effectivement une des indications, les stress post-traumatiques où l'hypnose est très utilisée et intéressante. Je vous prends un exemple d'une patiente que je voyais. Alors c'était un accident de moto en l'occurrence et on peut réutiliser en fait. De toute façon, le souvenir est là. La patiente a et dans les stress post-traumatiques, elle a des reviviscences, elle fait des cauchemars de ce qui s'est passé. On peut donc utiliser l'hypnose, pas pour oublier, on ne va pas oublier ce traumatisme, mais on peut modifier l'affect qui est lié à ce traumatisme. Par exemple, cette patiente, je lui avais proposé de monter sur sa moto, de commencer le chemin. Et puis, de finalement, j'avais ouvert la porte. Elle, ce qu'elle avait décidé de faire, c'était de changer de chemin, d'aller se promener dans les champs de lavande. Elle savait très bien que c'est pas ce qui s'était déroulé dans la réalité. Simplement, associée à ce souvenir traumatique, elle l'avait revisité d'une manière beaucoup plus confortable et agréable. Mmh. À partir de ce jour-ci, elle n'a plus fait de cauchemars et plus de reviviscence. Alors que ça faisait 4 ans qu'elle avait enfin, c'est ces souvenirs qui revenaient tous les jours.
Il y a des rechutes aussi pour les personnes qui obtiennent de bons résultats avec l'hypnose.
Alors bien sûr, il peut y avoir des rechutes. Ce qui se passe parfois, c'est que à un moment donné, par exemple, quelqu'un avec une phobie peut très rapidement en hypnose lâcher sa phobie. Simplement, ce qui peut se passer, c'est que le symptôme peut avoir un rôle aussi dans la façon dont la personne est en lien avec son environnement. Et donc, si ce symptôme avait une fonction, par exemple, quelqu'un qui a une phobie mais qui est accompagné à l'école par sa maman, si la maman du coup est seule et que le symptôme était utile, il peut parfois revenir.
Très vite, Jean-Marc Benayem, pour conclure.
Bien, c'est une façon, comme dirait le neurologue, de laver l'amygdale. Dans le cerveau, il y a une zone où il y a la peur. C'est là que ça se voit dans l'imagerie cérébrale. Et les expériences qu'on vient d'entendre sont des expériences où le patient peut vivre une expérience en disant, ben, finalement, maintenant, je peux vivre, ressentir sans émotion. Et ça soigne le PTSD. On peut faire ça parce que l'hypnose fait beaucoup appel à l'imagerie. C'est-à-dire, le mouvement imaginé ressemble au mouvement en voie d'exécution. Donc, de ce fait, la personne est en train de faire cette expérience et le soulagement peut venir.
Merci beaucoup à tous les deux, Dina Roberts et Jean-Marc Benayem, avec ce livre « Zen et hypnose » aux éditions de La Martinière.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mercredis, 20h50, France 5, la science grand format, les secrets de la pyramide de Khéops ce soir. Bonjour Thierry Minot.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous travaillez pour l'unité documentaire de France 5. C'est donc à la dernière des 7 merveilles du monde que vous consacrez ce nouveau documentaire, autour d'une découverte en 2013.
Exactement. Notre histoire commence il y a quelques années. Des archéologues mettent au jour de très nombreux fragments de papyrus qui sont relativement bien préservés. Ces fragments se révèlent être le journal d'un certain Mérère qui a supervisé il y a 4500 ans une partie du chantier de la construction de la Grande Pyramide. Et c'est exceptionnel, ils sont couverts de hiéroglyphes dont les inscriptions sont toujours lisibles. Alors ce qu'on va se dire que la Grande Pyramide aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment elle a été construite. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les ingénieurs égyptiens ont testé plusieurs types de pyramides avant de construire ce chef-d'œuvre.
Extrait du documentaire de ce soir.
À première vue, la structure de la pyramide peut sembler très simple. Mais à l'époque de sa construction, vers 2500 avant notre ère, elle était à la pointe de l'ingénierie. L'idée même d'un édifice de plusieurs étages en blocs de pierre était nouvelle.
Le plus incroyable, quand on regarde les progrès faits par les Égyptiens en matière d'ingénierie et d'architecture, c'est qu'ils sont passés de petits bâtiments relativement basiques à des pyramides immenses et très sophistiquées en seulement 2 siècles.
Thierry Minot, on insiste plus aujourd'hui sur la construction de la pyramide, le rôle des ouvriers, parce qu'il y a quand même beaucoup de mystères toujours, hein.
Alors, il reste énormément de mystères. On sait par exemple que les ouvriers n'étaient pas des esclaves, mais plutôt des ouvriers spécialisés, parce qu'on a retrouvé une cité qui se trouvait au pied de la pyramide. On sait également que grâce à des nouvelles technologies comme le lidar, comme même la technologie des muons qui est actuellement dans la Grande Pyramide, on n'en sait plus. On sait que cette pyramide est pleine. C'est vrai que c'est un mystère, mais qui petit à petit se révèle à nos civilisations.
Et à nos scientifiques, hein, puisque vous allez donc nous montrer le travail de ces chercheurs autour de ce documentaire, donc les secrets de la pyramide de Khéops. C'est dans la science grand format de France 5 ce soir à 20h50. Merci Thierry Minot, à bientôt.
Merci, à bientôt.